Alors, la prédication se situe quelques jours après ce que Daniel vient d'expliquer. C'est incroyable, hein? Et je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose aujourd'hui, simplement que vous puissiez vous poser des questions, et notamment une question, enfin même plusieurs questions. Est-ce qu'on a saisi l'importance du sacrifice de Jésus-Christ? Est-ce qu'on a saisi la grâce de Dieu? Est-ce qu'on s'est approprié la grâce de Dieu? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont été baptisés, qui sont dans une église et qui n'ont jamais réalisé la grâce de Dieu dans leur vie. Ils n'ont jamais réalisé l'importance du sacrifice de Jésus-Christ. On connaît l'histoire. Ici, tout le monde connaît l'histoire. Un mont, trois croix, l'une d'elles, celle du milieu, l'est pour mon salut. Sur cette croix, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a pris sur lui tous les péchés du monde. Et il en a supporté le divin châtiment. Il est frappé par la justice de Dieu. Il subit à ma place toute la colère de Dieu contre mes péchés. Et on sait que le bras de Dieu n'a été retenu en rien, parce qu'il faut que la justice soit rendue et que le mal soit condamné. Et Christ est celui qui a payé à ma place pour ma délivrance. Quand je parle de cette façon-là, c'est comme si vous vous parliez à vous. Christ est mort à votre place, pour vos péchés. Il a payé le prix et il n'y a rien à ajouter à la colère de Dieu qui s'est abattue sur lui et à l'œuvre salvatrice par laquelle je reçois la rédemption et le pardon de Dieu. Il n'y a rien. Jésus-Christ a tout payé. Et c'est là que il faut arrêter la religiosité. Parce que en Jean 19:30, il est dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent encore faire quelque chose pour Dieu. Il faut que. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Rien. Christ a tout accompli. Mais bien sûr, qu'est-ce qui a été accompli? Et c'est là où beaucoup ont du mal à comprendre. Qu'est-ce qui a été accompli? Oui, bah Christ est mort pour le pardon de mes péchés. Et après? Il y a des gens qui ne comprennent pas cette phrase-là. Il y a des gens qui ne comprennent pas que certains, par exemple, meurent de la grippe. Mais c'est qu'une maladie banale. J'ai pas besoin de me faire vacciner. Il y a combien de morts de la grippe par an? Vous voyez, c'est une image. J'ai pas besoin du salut de Dieu, de Jésus. J'en ai pas besoin. Et ils vont connaître la vie, la mort éternelle. En fin de compte, c'est la mort de Jésus-Christ pour nous, c'est le plan de Dieu en grâce envers tous les hommes. Lorsque tu tournes les regards vers Jésus-Christ, tu reçois la grâce de Dieu. C'est pas simplement je regarde la croix et je suis sauvé. C'est sûr que si on s'arrête là, ça fait un petit peu court, hein, je pense. Et malheureusement, comme je le disais, il y en a beaucoup qui n'acceptent pas ce plan parce qu'ils sont complètement incrédules. Ils refusent d'admettre qu'un jour un homme est mort sur une croix. C'est bon pour les gens faibles, la foi. La religion, c'est pas pour moi, ça me sert à rien. Et pourtant, il y en a d'autres qui, par la foi, acceptent ce don gratuit que Dieu donne. Et ils jouissent à ce moment-là d'un grand salut. Alors le problème, il est là. Est-ce qu'on discerne chaque jour l'étendue et la grandeur du salut en Jésus-Christ? Est-ce qu'on en mesure les conséquences? Si vous dites à quelqu'un, quelqu'un vous pose la question, est-ce que tu es sauvé? Oui, je suis sauvé, je connais Jésus. Et alors? Je vais dire comme Daniel ce matin, est-ce que ça se voit? Ça ne suffit pas. D'où cette réponse à la question, est-ce que j'ai saisi la grâce de Dieu? Est-ce que je me suis approprié le sacrifice de Jésus-Christ? Vous allez voir, ça va loin. En fin de compte, lorsque je réalise que sur la croix où Jésus a porté mes péchés, je dois m'y voir crucifié. Je dois voir ma chair corrompue, crucifiée avec Jésus-Christ. La parole de Dieu me dit avec vérité et puissance que, étant associé avec Christ dans la mort, je le suis également dans la résurrection. En Romains 6, verset 5, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Je viens de parler de quoi, à votre avis, ici? Du baptême. Je viens de parler du baptême. Lorsqu'on trempe la tête de quelqu'un dans l'eau, il meurt. Lorsqu'on le relève, il ressuscite. Mais est-ce que j'en ai saisi l'importance? Est-ce que j'ai saisi ce geste que je meurs en Jésus-Christ et que je ressuscite? Moi, je me suis fait baptiser, je n'avais absolument jamais réalisé ce que ça voulait dire. Il faut être honnête un jour. Il faut savoir le dire. Il faut savoir dire, ben oui, Seigneur, j'ai jamais saisi ce que ça voulait dire. J'ai jamais compris pourquoi tu as accepté de mourir pour moi sur la croix. J'aime à dire qu'on le verra plus tard, lorsqu'on sera avec lui dans le ciel. Mais le problème, c'est est-ce qu'on sera avec lui dans le ciel? Parce que, certes, j'ai peut-être pris le baptême, certes, je suis peut-être dans une église, mais est-ce que ma vie correspond à la parole de Dieu? Est-ce que ma vie reflète le sacrifice de Jésus-Christ? Est-ce que cette grâce qui est devant mes yeux, je l'ai prise? Je l'ai posé sur mon cœur. Est-ce que j'ai fait ça? Ou est-ce que je vis comme un bon pharisien, sûr de sa parole, sûr d'avoir dans mon cœur cette parole, alors qu'elle n'est que dans ma tête? Parce qu'un poirier, si vous plantez un poirier, si vous plantez un pommier, vous attendez à quoi? À avoir des poires ou des pommes, on est d'accord. Donc ça veut dire porter du fruit. La grâce de Dieu dans votre vie doit vous amener à porter du fruit. Et le fruit est issu de l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui tous les jours vous travaille, lorsqu'on se laisse travailler. Parce qu'entre ce que Christ a accompli et ce que je manifeste en pratique, il y a parfois un immense fossé à combler. C'est-à-dire que ça ne correspond pas du tout à ce que j'entends, à ce que je lis, ma vie ne reflète absolument pas ce sacrifice. Parce que, et ça c'est un fléau, la mise en pratique de la parole de Dieu est souvent passée au second rang. Parce qu'elle est devancée par quoi ? Les pratiques religieuses. Sans attachement par la foi à Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on est tellement persuadé qu'en s'asseyant dans une église, on est sauvé, que jamais on se remet en question devant le Seigneur. Il y en a combien de religieux ? Il y en a combien qui vivent sur des acquis ? Lorsqu'on est devant la parole de Dieu, celle-ci doit nous travailler. Je dis souvent, et j'aime souvent le dire, et j'aime souvent à vous le dire, lisez, méditez le premier épître de Jean. Vous allez vous ramasser une claque. Il n'y a pas de niveau de gris dans l'épître de Jean. Vous êtes de Dieu, vous êtes du diable. C'est ça que doit faire la parole de Dieu. Elle doit nous amener à nous considérer face à lui. Et peut-être un jour de dire, mais Seigneur, je suis des années-lumière du sacrifice de Jésus-Christ. Vous comprenez que Jésus-Christ est mort pour quelque chose. Il n'est pas mort parce que son Père lui a dit, écoute, tu vas mourir sur la croix. Mais non, il est mort pour sauver l'humanité, pour donner cette porte ouverte, cette petite porte avec ce petit chemin qui est derrière. Il a donné cette porte ouverte à celui qui aura le courage de l'emprunter. Parce qu'il faut du courage. Il faut du courage à se sentir sale devant Dieu. Il faut du courage pour se sentir meurtrier. J'ai jamais tué personne. Mais parfois, une parole, une seule parole peut tuer quelqu'un. Il faut avoir le courage de dire, mais non, j'ai jamais reçu, j'ai jamais connu ce temps-là. Il faut que je m'approprie la grâce de Dieu. Et on oublie souvent qu'on n'a rien à faire. Parce que tout a été fait à la croix. Quand Jésus-Christ crie, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il suffit simplement d'avoir cette foi, de croire en lui, de l'aimer et surtout de l'obéir. Il y a un verset que j'aime bien, c'est en Jean 13, 17. Vous savez ces choses, vous connaissez la parole. Vous le lisez tous les jours. Vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Mettez en marche la foi que vous avez reçue de Dieu. Mettez en marche toutes ces choses qui sont devant vos yeux, que vous lisez comme une vérité et qui est la vérité de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque je regarde à la croix, en fin de compte, je dois m'y voir crucifié à côté de Jésus et lui en train d'expier mes péchés. On l'a lu mardi, ce verset. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour un humain. Ce n'est plus moi qui vis. Il y a combien d'orgueilleux dans nos églises et qui ne veulent pas l'admettre. C'est Christ qui vit en moi. On en revient à ce que disait Daniel. Si Christ n'est pas en moi, je suis incapable de produire l'amour de 1 Corinthiens 13. J'en suis incapable. Je vais bricoler quelque chose. Et puis dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans mon sens, ça explose. Puis après, on va prendre la Sainte Seine. Et on se tape sur le ventre en disant « Je suis sauvé ». Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est-à-dire que on met à la poubelle le sacrifice de Jésus-Christ, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'on n'a pas cette honnêteté de dire « mais non, j'en suis loin ». Je n'ai pas saisi réellement la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je n'ai pas saisi ce que Dieu voulait me donner, sa grâce. Si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans mon être, je vis dans la foi. J'aime le Seigneur, même si je suis sur cette terre. Je suis les préceptes de Dieu, j'obéis à sa parole. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est Galates 2:20. Je suis sur la croix avec Christ. Cependant, la connaissance de ce fait doit être une réalité dans ma vie. Je dois réaliser que je suis mort avec Jésus-Christ à la croix. C'est le baptême. Ça doit se voir, ça doit se sentir. Je vais vous dire autre chose tout à l'heure sur ce fait-là. Il faut vivre ce que Christ a fait pour moi et ce qu'il a fait de moi. Vous comprenez? On doit sentir la différence entre ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai réalisé ces choses. C'est la mort de Jésus-Christ, son œuvre qui est venue en moi par la puissance de son esprit qui a fait tant de merveilles. Des petites choses, des fois. Des petites choses, et puis on ne s'en aperçoit pas. Et un jour, au gré d'une conversation, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des choses qui sont parties. Moi, je pourrais vous expliquer une chose qui est banale. C'est un mot grossier que je ne sais pas pourquoi, depuis des années, je disais à chaque fin de phrase. Et un jour, c'est Paul qui m'a fait la réflexion. J'ai rien demandé à Jésus. Je ne vous dirai jamais que j'ai prié et demandé à Christ de m'enlever cette chose-là. Et un jour, j'ai réalisé que cette chose-là, je ne le disais plus. Le Seigneur m'a montré. Et c'est incroyable. Il est fidèle dans les grandes choses et des fois dans les petites choses, on ne le voit même pas. Et ces petites choses sont importantes. Donc, il faut vivre ce qu'il a fait pour moi et de moi. Vous comprenez? Parce que vous êtes de nouvelles créatures en lui. Vous êtes changé. Vous n'êtes plus le personnage hideux d'avant qui sentait la mort. Vous êtes de nouvelles créatures. Vous avez du prix à ses yeux. Et en fin de compte, c'est la clé qui ouvre la voie de la liberté dans nos vies. Ce n'est pas les reproches sur ma conduite, sur ma vie, qui changera quelque chose en moi. Vous comprenez, les choses humaines, les choses qu'on vous dit, ce n'est pas ça qui nous changera. Mais dès que je saisis que rien n'est de moi, mais que tout est en Christ, c'est là où la liberté commence. Tout vient de Jésus-Christ. Est-ce que j'en ai conscience ce matin? J'entre à ce moment-là dans cette liberté qu'il m'offre et je vis complètement dans l'obéissance. Et c'est là où il faut réagir. Si je suis de Christ, j'obéis à Christ. J'obéis pas aux pensées, j'obéis pas à tout ce qui arrive, toutes ces petites paroles qui me sont dites. J'obéis à Christ. Alors, en fin de compte, on découvre quoi? C'est que cette liberté m'ouvre bien plus de portes qu'elle n'en ferme. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Vous voyez, on est mort avec Jésus-Christ. Lui, il est mort pour nous, nous, on est mort aussi pour lui et avec lui. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 14, 15. Ne plus être à soi, ne plus vivre pour soi-même, revient à se donner tout entier à Jésus-Christ, à se laisser bercer par lui. C'est lui qui choisit à notre place. C'est lui qui fait mouvoir la grâce dans notre vie. Lui qui nous aime, en fin de compte, est-ce qu'il ne pourrait pas choisir et nous donner ce qu'il y a de meilleur ? C'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. En fin de compte, cet affranchissement est à ma disposition depuis ma naissance en Dieu. De Dieu, pardon. Depuis que je suis né de nouveau, j'ai à ma disposition cet affranchissement. Et il y a beaucoup de gens qui sont encore enchaînés parce qu'ils n'ont pas saisi ces choses. Ils sont entravés. Et on vit et on a vécu. Là, je marque, j'ai vécu tout ce temps comme un esclave du péché. Mais de temps en temps, à intervalles réguliers, je revenais au repentant au pied du Seigneur, mais de temps en temps. Vous savez qu'il y a une histoire vraie qui raconte qu'un homme condamné à mort a été exécuté parce qu'il n'a pas voulu croire que le juge l'avait gracié. C'est une histoire vraie. Alors on se dit, mais quel idiot! Mais moi, j'aurais saisi ce moment-là. C'est l'image, en fin de compte, frappante de ce monde d'aujourd'hui, où les gens ont entendu parler de la grâce de Dieu, même dans nos églises, et qui ne saisissent pas cette grâce. Et, en fin de compte, on va vers une mort éternelle. Même si on a l'impression d'être sauvé, même si on est dans une église, si on refuse cette grâce, c'est la mort éternelle. Pourtant, Dieu me dit que je suis mort et ressuscité avec Christ. Il me le dit. Je lis ces paroles. J'entends les paroles divines. Je les reçois. Mais dans mon fort intérieur, je n'ai pas la foi pour les accepter pleinement. De telle sorte, en fin de compte, que je ne bénéficie pas des effets de la grâce. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'ai du mal à accepter qu'effectivement Jésus-Christ est mort et ressuscité. Pour moi, je le réalise absolument pas. J'ai été libéré et je me comporte comme si de rien n'était. Parce que je n'ai pas pleinement conscience du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Si donc le Fils nous vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Comment être libéré de ses péchés ? La grande question. En fin de compte, la Bible nous répond parfaitement. Et simplement, Jésus-Christ a vaincu pour moi. C'est tout simple. Tout est accompli en lui. Et le fait que il faut saisir que Christ m'associe dans sa mort et dans sa victoire. C'est cette chose petite, puissante qu'il faut saisir. Je suis associé à Christ dans sa mort et dans sa victoire, avec la résurrection. Il a tout accompli. Il m'a délivré de mon moi pour que soient terminés les si, les hélas, les je. Mais il m'a également délivré des entraves de mon passé. Je vais vous dire quelque chose. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de mon passé, guéris des blessures de mon enfance, des paroles qui m'ont blessé et qui ont influencé ma vie, guéris des malédictions prononcées sur moi ou sur ma famille. Tout est coupé. Tout est coupé en Jésus-Christ. C'est pour ça que rien ne doit m'empêcher de vivre la liberté à laquelle Christ m'invite. Il a brisé même les chaînes qui me retenaient de la chair et de ses convoitises. En Galates 5, 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour Jésus-Christ. » Christ est vainqueur non seulement de la mort, mais aussi de mes atermoiements, de mes hésitations, de mon orgueil, de mon fatalisme coupable, de mon incrédulité quant à l'entièreté des véracités et la pleine puissance de ses promesses. Est-ce que je crois vraiment aux promesses de Dieu? Est-ce que j'y crois? Il est souvent, et je le dis, il est temps d'arrêter de se battre, c'est ce que je vous les ai dit tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Il est temps d'arrêter de se battre avec soi-même. On ne se bat pas avec un mort. On le laisse dans son état sans s'en occuper. Il est mort. Quand il ne peut pas regimber, c'est à ce moment précis que commence la vraie liberté. Alors, meurs à toi-même. Accepte d'être crucifié avec Christ à la croix. Et on faisait une réflexion mardi. Le verset disait « J'ai été crucifié ». Le verset ne dit pas « Je me suis crucifié ». Vous comprenez ce que ça veut dire? On a la repentance, on a toutes ces choses à faire, c'est sûr. Mais c'est le fait d'accepter de mourir. Quand je dis mourir, ça veut dire que mon moi n'existe plus. C'est Christ qui vit. C'est lui qui vit. Et ça se voit, ça se sent. On entre quelque part, c'est un rafraîchissement. Là où il y a la violence, c'est la paix qui vient. Là où il y a les pleurs, c'est la joie qui vient. Parce qu'on sent la présence de Jésus-Christ. Mais il faut parfois bien du temps pour enfin vivre ce qui était possible dès le début. Vous savez, il y a des gens qui vont mettre des années pour comprendre. Pourquoi? Parce que l'homme est borné, incrédule. Il lui faut souvent du spectaculaire. Il s'attend à voir l'Esprit de Dieu arriver, tout fracassé, des flammes de partout. La parole nous dit souvent que lorsque l'Esprit vient, il est comme un souffle léger et rafraîchissant. Ça n'a rien à voir avec toutes les images qu'on a. Et souvent, quand ça ne marche pas, on cherche parce qu'il ne fonctionne pas. On va peut-être mettre ça sur le dos de l'Église. On va mettre ça sur le dos de ceci, de cela, même sur le dos de Dieu. Pourquoi pas? Si ça ne marche pas dans ma vie, c'est de la faute du Seigneur. En oubliant souvent que quand on pointe un doigt, il y a trois autres qui sont pointés vers nous. Comme il a encore été dit ce matin, on oublie souvent que le problème vient de nous-mêmes. Ce n'est pas un problème d'église, ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème de personnalité. On ne doit pas regarder en arrière, retenu et de nouveau enchaîné par des remords stériles, des choses du passé qui nous hantent et qui nous empêchent de regarder devant. Mais dès maintenant, il faut vivre libre. Il faut courir délié de toutes les entraves de la chair, transmettant cette précieuse vérité de l'affranchissement, c'est-à-dire la liberté, au plus grand nombre et à la génération qui peut-être terminera la course du salut. C'est-à-dire qu'on est appelé à témoigner de l'œuvre de Christ dans notre vie, témoigner de pourquoi un jour un homme a accepté de mourir pour nous. Et si vous n'avez pas parlé, ne vous inquiétez pas, c'est votre vie qui doit témoigner. Des fois, les actions valent bien mieux que les blablas. Parce que les gens peuvent se reculer, vous regarder vivre et disent « J'aimerais bien savoir pourquoi il vit comme ça. J'aimerais bien connaître. Savoir pourquoi il est différent, pourquoi il est différente des autres. Je veux connaître ce secret. On vit tellement dans un monde de fous. Et pourquoi ça ? Simplement parce que Christ a tout accompli à la croix. Amen.